autour de la table trois projets avec d'abord Christelle Delbrouck, Christelle Delbrouck, voilà, on sait pas trop bien qui c'est, on sait qu'elle est comédienne. Moi j'ai eu vent de Christelle par cette idée un peu folle d'aller devant la commission avec un gueulophone lire la liste des, comment on dirait, des disparus en Méditerranée, mais pas que.
Pas que dans la Méditerranée. Disparu à cause de la politique migratoire européenne. Donc, c'est dans les centres pour réfugiés. Ce sont des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas l'autorisation d'asile. Ce sont des gens qui disparaissent. Ce sont des gens qui se font tuer ou par des gardes-côtes ou par des gardes de sécurité ou par un voisin. Enfin, bref.
Voilà. Et donc, tu vas nous raconter un peu tout ça, Christelle. Merci d'être là. Et puis il y a à côté, juste assis à côté, là vous pouvez vous regarder dans les yeux, Alexandre Annès qui vient nous parler de ce concept qu'il a créé, si j'ai bien compris, qui s'appelle Nocif Art, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui. C'est un concept que j'ai créé en 2007-2008. Et en fait, c'est utiliser les matières nocives pour en faire de l'art, le fusionner en tout cas.
Voilà, et tu vas nous raconter ça, et c'est une expo, enfin, pour parler aussi de cette expo qui a lieu.
Pour l'instant, oui, à l'UCL. Oui.
Voilà, jusqu'au 21 du 2. Tu nous raconteras ça aussi, merci. Ah ben heureusement, j'ai retenu ton prénom, c'est Martin Van der Elst, voilà, qui nous revient, hein, parce que tu es déjà venu du comité Maouda Justice et Vérité, et toi, vous, le comité, vous venez parce que vous avez lancé une cagnotte pour continuer cette fameuse histoire de la petite Maouda qui s'est fait tirer dessus. Je ne sais pas si c'est bien dit, comment j'ai dit.
Oui, tout à fait. Ben nous, j'en parlais tout à l'heure, mais on met en place une cagnotte Letchi pour lever des fonds, pour donner tous les moyens juridiques possibles à la famille de Maouda pour faire condamner le policier et pour obtenir une justice par rapport à ce qui est un assassinat.
Voilà. Merci, je le dis, hein, je répète, merci vraiment d'être là en direct. Et puis il y a Benjamin aussi, c'est lui qui nous a amené Nocif Art. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça on verra, hein, Benjamin.
Voilà. Vous allez voir, donc moi je suis là pour effectivement ouvrir le Nocif Art à Radio Campus. Mais je vais surtout laisser la parole à Alexandre.
Ben oui, oui, de toute façon. Hein. Mais moi je laissais d'abord la parole à Christelle, on démarre comme ça. Christelle...
Bonjour.
Comment ça va?
Mais ça va bien.
Trouver la radio facilement?
Oui, j'étais déjà venue.
Ah voilà.
Ah ouais, je me suis retrouvée sur le parking et j'ai vu que j'étais déjà venue.
Voilà. Et j'ai vu une belle présentation de toi sur cette espèce de revue, comment on dirait, un média virtuel, un média écrit qui s'appelle Mammouth, que je connaissais pas du tout.
Ah oui, mais je
ça donne un joli portrait de toi.
Oui, c'était bien fichu. Je me suis dit, oula, quand même. C'était un peu dithyrambique comme ça, oui.
Et pourtant, ce sont des étudiants en journalisme et communication qui ont créé ce site qui est pas mal foutu, vraiment. Et le titre, c'est « Quand Christelle Delbrouck se prend pour une sardine ».
Oui.
Mais pourquoi pour une sardine?
Mais alors, c'est marrant parce que j'avais discuté de ça, du principe de la sardine cet été. Et puis, j'ai vu qu'en fait, même les sardines, il y a eu tout le mouvement des sardines en Italie, etc., qui s'est mis en place.
Voilà.
Mais avant...
Le mouvement avant de contestation contre...
Oui, c'est ça. Mais c'est marrant, on avait parlé des sardines avant. En fait, la sardine, c'est tout petit. C'est un petit poisson qui ressemble à rien. Mais c'est le moyen de subsistance principal, par exemple, des migrants qui dorment au parc Maximilien, par exemple, ici tout près de chez nous. Et c'est aussi des animaux qui sont pleins d'énergie, en fait. C'est un moyen de subsistance. C'est tout petit, ça ressemble à rien, et pourtant, ça peut faire bouger les choses. Donc voilà, et on parlait de ça avec une amie lyonnaise qui essaye de faire bouger les lignes aussi, elle, plus du côté des violences conjugales. Enfin bon, bref, on avait une discussion très riche cet été.
Et alors toi, on comprend que tu étais partie pour devenir professeur de français.
Oui.
Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça.
Et puis plus, voilà, je faisais déjà beaucoup d'improvisation théâtrale. Et donc, voilà, il a fallu que je choisisse entre les deux parce que sinon, ça faisait des journées de 22 heures et c'était un peu compliqué.
C'est vrai que pour t'avoir à l'agenda, galère.
C'est un peu difficile, oui.
Voilà, et tu as été aussi, je ne sais pas ce que ça veut dire, plusieurs fois champion du monde d'improvisation. C'est quoi ça,
ça, c'est vraiment des trucs pour mettre sur un CV. en fait, il y a des championnats du monde chaque année, mais c'est plutôt du monde francophone, on va dire. Donc déjà, ça le réduit solidement. Et puis, il y a des rencontres voilà, d'improvisation et il se trouve que oui, la Belgique a été plusieurs fois championne quand j'étais dans l'équipe. Donc, voilà.
D'accord, d'accord. Et puis maintenant, tu as créé deux spectacles entièrement improvisés.
Oui, tout à fait.
Nadette et Rugueux.
Oui, c'est ça. Nadette, je ne le joue plus trop, mais Rugueux, là, on le joue pas mal. C'est plutôt un concept pour essayer d'aborder des sujets qui fâchent, des sujets qui piquent un peu.
Comme quoi, par exemple?
Là, on a joué dernièrement pour la journée mondiale des violences faites aux femmes. On a aussi joué pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Enfin, voilà, on essaye de travailler sur des sujets qui fâchent. Et on part aussi de points de départ avec les gens du public sur ce qui les irrite, ce qui les rend dingue, des petites phrases, des concepts. Et ça peut aller du petit caillou dans la chaussure jusqu'à la Corée du Nord. Voilà, c'est très large.
L'image, quoi, j'adore.
Voilà, c'est très très large.
Et donc, tu travailles aussi au Magiglan Théâtre ?
Tout à fait, voilà. Oui.
Donc, t'as pas mal bourlingué déjà dans le milieu
Oui, ça va, je n'ai pas à me plaindre, j'ai du travail.
Voilà.
C'est pour ça.
Et alors moi j'avais envie de te rencontrer, mais j'aimais bien aussi dans l'article Mammouth, hein, donc ce média sur le web,
ouais.
Tu disais aussi par rapport à tourner autour de son nombril, c'est hyper fatigant et ça ne rend pas heureux.
Non.
Tu as dit ça.
Oui.
Hein ?
Déjà, j'ai un ventre relativement gros, mon nombril est relativement profond. Non, mais je trouve que, en fait, on se rend bien compte, les gens, quand ils sont heureux, c'est parce qu'ils ont du lien. Et donc, voilà, et je pense que de plus en plus, par rapport justement aux gens qui se referment et qui se regardent le nombril et à vouloir fermer les frontières, à vouloir faire sa petite région à soi, son petit parti à soi et à rejeter tout ce qu'il y a autour, en fait, ça mène nulle part. Mmh. Voilà.
Du temps pour les autres, on en a toujours. Et donc, toi, tu as pris du temps sur ton temps,
ouais,
pour aller gueuler avec ton gueulophone. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, en fait ?
En fait, depuis le mois de juin, il y a eu toute cette histoire avec Carola Raqueteux qui a dû arriver, qui avait plein de migrants dans son bateau, un bateau d'ONG, et qui voulait absolument débarquer ces gens, qui étaient dans une situation catastrophique d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue psychologique, et tous les ports lui étaient fermés, Matteo Salvini était encore là, il ne voulait pas la laisser passer, et elle a dû forcer le passage pour débarquer les gens et pour pouvoir les sauver. Et tout le fait, à un moment, l'Europe, tous les pays européens mettaient des bateaux de sauvetage dans la Méditerranée. Maintenant, il n'y en a plus aucun. Il n'y a plus aucun bateau de sauvetage qui appartient à l'Europe, qui sauve les gens en Méditerranée. Il n'y a plus que des ONG.
Pourquoi, en fait ?
Pourquoi ? Parce que je pense que ces gens, pour eux, n'existent pas. Et donc, l'année dernière, au mois de juin aussi, il y a eu la journée internationale de la migration et Agir pour la paix, qui est une ONG ici belge, avait organisé la lecture de la liste de tous les migrants morts qui ont été comptabilisés par rapport à la presse, etc., par une association d'ONG qui s'appelle United for Cultural Action, un truc comme ça, excusez mon anglais, il est assez pathétique. Mais donc voilà, et en fait c'est la seule organisation qui a comptabilisé les morts. C'est-à-dire que pour l'Europe et pour chacun des pays, ces gens n'existent pas. On parlait de Maouda tout à l'heure, elle est dans cette liste aussi, comme Semira Adamou, comme pas mal de gens. Mais ces gens, pour l'Europe, en fait, n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas un organisme officiel qui comptabilise les gens qui meurent à nos frontières. Il n'y en a pas. Et donc, c'est un groupement d'ONG. Et cette liste est particulièrement intéressante parce qu'elle donne les raisons de la mort. Elle est horriblement cruelle. Il y a plus de 36 000 noms sur cette liste. Et encore, elle s'est arrêtée. La dernière mise à jour, elle date de mars 2019. Donc, tous ceux qui sont morts cette année-ci, on ne les a pas encore. Et il y en a eu vraiment beaucoup. Il y en a sans doute plus de 1 000 noms en plus. Et tous ces gens, en fait, il faut leur rendre un peu de dignité parce qu'ils ont disparu. La plupart des gens, on n'a même pas de nom, on n'a pas d'identité. Il y en a certains, on ne sait même pas si c'est des hommes ou des femmes, vu l'état dans lequel on a retrouvé les corps.
C'est quand même fou toute cette histoire, parce que ça se passe et c'est aujourd'hui que ça se passe.
C'est aujourd'hui, c'est ici, c'est chez nous, parce qu'il y en a plein qui sont morts ici sur notre territoire. Il y en a plein qui sont morts les frontières de l'Europe, la mer Méditerranée, tout le monde va en vacances par là. Voilà, c'est un véritable cimetière, c'est un gouffre. Les montagnes entre l'Italie et la France, c'est un véritable cimetière aussi. Il y a une rivière entre la Grèce et la Turquie qui s'appelle la rivière Evros, et où il y a un nombre incalculable de gens qui sont morts noyés dans cette rivière, parfois rejetés par les gardes frontières grecques en disant « c'est pas grave, vous repassez dans l'eau froide, vous retournez en Turquie ». Et en fait, ils meurent de froid, de faiblesse, de déshydratation.
Mais je peux poser une question naïve, et en même temps c'est la base quand même, mais comment ça se fait qu'au fond, il n'y a pas... Où sont les gens, quoi? Pour changer la donne, pour se battre, pour... Je sais qu'il y avait plusieurs bateaux en Méditerranée qui ont fait parler d'eux pour dire qu'ils voulaient quand même prendre position. Ça s'appelait comment ce bateau avec des médecins dessus?
Il y a le Sea-Watch, il y a l'Open Arms, il y a le Island Kurdi. Il y en a quelques-uns des bateaux qui
désobéissent, quoi. Hein, aussi,
qui désobéissent complètement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'ONG Open Arms, qui est une ONG espagnole, a un bateau pour l'instant. Par contre, le bateau est vraiment vétuste. Et pour pouvoir reprendre ses missions, etc., cette ONG fait aussi une cagnotte pour récolter un peu des fonds. Et donc, si jamais il y a des gens qui ont des fonds de tiroir, mettez la moitié pour Moda et l'autre moitié pour l'Open Arms, ce serait vraiment sympa. Parce que voilà, si jamais ces bateaux s'arrêtent, pour finir, on ne sait même plus si ces gens n'auront définitivement plus existé, à part pour leur famille qui est restée là-bas et qui n'aura plus jamais de nouvelles. C'est une torture mentale énorme. Vraiment. Et on en est tous responsables, vu que c'est avec notre argent.
Mais évidemment, et même les politiques d'ici, on en parle. Enfin, moi, je trouve que c'est pas le sujet qu'on met en avant. Enfin, c'est fou. On est dans monde de dingue.
Mais c'est avec nos impôts, hein. Donc que les gens soient bien au courant, avec nos impôts, en fait, on paye Frontex, on paye la fermeture des frontières, on paye. Et donc, en fait, on assassine ces gens quand on ne les remballe pas en Libye, parce qu'en plus, on les revend aux Libyens également ou en Turquie pour les mettre dans des camps, dans des conditions catastrophiques qu'on connaît et que tout le monde a déjà dénoncé. Voilà.
Moi, je te propose, Christelle, de faire comme si tu étais à la commission,
mais
peut-être
le Berlaymont,
mais peut-être là, tu gueules, quoi.
C'est ça. Je vais le faire moins fort que devant.
Oui,
le Berlaymont.
Là, tu peux le faire jouer avec.
Oui. J'étais pas toute seule devant le Berlaymont. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui sont venus lire avec moi. Là, c'était un bon moment. Alors, si on reprenait, on est le 7 aujourd'hui, non?
Oui.
Voilà, on va reprendre à partir du 7 février 2019 et puis ça va redescendre dans les dates. Je vais pas lire toute la liste parce qu'il faut quasi 30 heures pour la lire en entier, tellement elle est lourde. Mais donc voilà. Le 7 février 2019, Derman Tamimou, un homme de 29 ans originaire du Togo, est mort d'hypothermie dans les Alpes après avoir traversé la frontière franco-italienne par la dangereuse route de la montagne. Le 6 février 2019, un enfant de 3 ans, d'origine inconnue, est trouvé dans un état de décomposition avancé sur la plage El Djebel, près de El Kala, en Algérie. Le 6 février 2019, 3 personnes d'origine inconnue, une s'est noyée et 2 ont disparu dans le naufrage d'un bateau de migrants sur les côtes de Tanger, au Maroc. 43 personnes ont été sauvées. Le 5 février 2019, un jeune homme, originaire d'Afrique subsaharienne, est mort de froid. Il s'est perdu dans une zone forestière inaccessible de Vodni Dol, à la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Le 3 février 2019, un homme de 34 ans, originaire d'Algérie, est renversé par une voiture à Vledika Kladuza, en Bosnie-Herzégovine. L'aide médicale est arrivée trop tard, car ils étaient débordés dans cette petite ville frontalière. Le 23 janvier 2019, une femme de plus ou moins 30 ans, d'origine inconnue, son corps a été retrouvé dans un état avancé de décomposition sur la plage de Bahara, en Algérie. Le 22 janvier 2019, Youssef, un homme originaire d'Algérie, est mort noyé après s'être échappé d'un centre pour migrants de Ceuta et en essayant d'atteindre l'Espagne dans un kayak. Le 21 janvier 2019, la veille, Adèle Melbrek, un homme originaire d'Algérie, s'est noyé après s'être échappé d'un centre pour migrants de Ceuta et en essayant d'atteindre l'Espagne dans un kayak. Le 21 janvier 2019, 6 personnes d'origine inconnue sont présumées noyées près de Al-Qoums, en Libye. 100 survivants ont été emmenés dans un centre de détention en Libye. Le 21 janvier 2019, un jeune garçon de 15 ans d'origine inconnue est mort à l'hôpital de Al-Qoums, en Libye. 100 survivants ont été emmenés dans un centre de détention de Libye. Le 20 février 2019, deux personnes d'origine inconnue sont mortes après avoir passé 24 heures sur un bateau de migrants au large de la Libye. 140 survivants ont été emmenés dans un centre de détention en Libye. Le 18 janvier 2019, un homme d'origine inconnue est mort noyé après être tombé d'un bateau de migrants en chemin vers la Turquie, vers l'île de Pharmakonisie en Grèce. Le 18 janvier 2019, 117 personnes, dont deux bébés, 10 femmes, dont une enceinte, originaires du Soudan, du Nigeria et de Côte d'Ivoire, toutes ces personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes de Garabouli, en Libye. Les secours sont arrivés très tard. Il y a eu seulement 3 survivants. Le 17 janvier 2019, 53 personnes, dont 3 femmes originaires de Mauritanie, ont disparu dans un naufrage de migrants dans la mer d'Alboran, entre le Maroc et l'Espagne. Il n'y a eu qu'un seul survivant, sauvé par un bateau de pêcheurs. Le 15 janvier 2019, Aman Oula Khan, un homme de 19 ans originaire d'Afghanistan, est trouvé mort à Paris, en France. Il avait vécu 2 ans en Norvège. Il a fui vers Paris après le rejet de sa demande d'asile. Le 15 janvier 2019, un homme de 24 ans, originaire du Maghreb, passager clandestin écrasé en se cachant derrière un camion, en essayant de monter à bord dans l'enclave de Melilla, vers l'Espagne. Le 15 janvier 2019, Zeynab Fadel, une petite fille de 4 ans, originaire d'Irak, est morte lors du remorquage par les gardes-côtes grecs d'un bateau de migrants en chemin vers Samos, en Grèce. Il était parti de Kouzadasi, en Turquie. Le 14 janvier 2019, 10 personnes d'origine inconnue, leurs corps ont été retrouvés au large de Sirte, en Libye. Le 11 janvier 2019, une femme originaire d'Afrique subsaharienne est morte lors de l'incendie d'un bateau de migrants au large des côtes de Beni Ansar, au Maroc, près de l'enclave espagnole de Melilla. Il y a 6 blessés. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Et par exemple, quand on a les gens qui sont ramenés dans un camp de détention libyen, ben, on sait ce qui se passe en Libye. Hein. Ce sont des... Donc il y a de l'esclavage, il y a de la torture, il y a de la vente. Là, il y a une ligne particulièrement horrible dans cette liste, mais je ne l'ai pas retrouvée là direct. C'est une jeune fille de 16 ans qui tombe enceinte et vu qu'elle ne peut plus servir d'esclave sexuelle en Libye, on la tape sur un canot de sauvetage, on la vire dans la Méditerranée et on lui crève son canot. Voilà. Il y a, cette liste est d'une horreur sans nom, c'est l'horreur humaine, c'est l'horreur actuelle. Ça se passe ici, maintenant, ça se trouve, pendant qu'on est en train de parler, il y a quelqu'un qui se noie, il y a quelqu'un qui meurt, il y a quelqu'un qui se suicide de désespoir, juste parce que personne ne les écoute, alors que ces gens n'ont commis aucun crime, si ce n'est de vouloir vivre heureux. C'est tout. Et voilà, c'est hyper toute bonne trash, ambiance, quoi. Allez, tout bon week-end à tout le monde.
C'est hyper trash.
Mais il faut le savoir.
Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que faire?
Ben moi, je devenais dingue, hein. Je devenais complètement dingue tout l'été. Là, j'arrivais plus à regarder. J'ai un petit garçon de 12 ans qui vit avec moi une semaine sur deux. Je pouvais plus le regarder en face. J'avais du mal à. Je dis mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est horrible. Alors ben voilà, j'ai fait ça. Vu que j'ai déjà beaucoup aidé sur pas mal de choses pour avoir des fringues,
oui,
du savon,
sûr.
Des choses.
C'est
pour
nous,
les migrants
monsieur,
qui sont
madame,
ici,
mais c'est aussi, moi, je pense aussi à échelle plus.
Mais c'est pour ça que j'étais
plus haute,
devant la
parce
commission.
Que c'est quand même des lois qui se décident au-dessus de nous, qui c'est prennent ça. Position là très clairement pour que.
Mais au Berlaymont, ils auraient pu faire une différence il y a quelques mois et à 2 voix près, c'est pas passé.
Ouais,
mais
ouais.
Là, ils voulaient reprendre, par exemple, les trajets en Méditerranée pour aller chercher les gens, les bateaux de sauvetage, etc. Ils voulaient reprendre ça, puis ils n'ont pas voulu. Et là, ils auraient pu encore, il y a 2 semaines, je pense, quand il y a eu les trucs par rapport à la Libye. Mais ils voulaient peut-être bien quand même reprendre quelque chose, mais seulement pour limiter le trafic d'armes et donc laisser les gens mourir si jamais ils les trouvaient dans des canaux, quoi.
C'est énorme.
Voilà.
Autour de la table, si quelqu'un a envie de dire quelque chose par rapport à ça, ou pas, hein, il n'y a pas de souci à ne rien dire non plus. Hein.
Mais moi, ça me... enfin, ça me... C'est toujours compliqué de dire, mais il faut parler. C'est bien de crimes contre l'humanité en cours.
C'est tout à fait ça. Ouais.
Et je me souviens à l'époque où l'Aquarius avait perdu son pavillon et il s'agissait d'une centaine de migrants à répartir dans différents pays européens. Il y avait une rencontre entre Charles Michel et Emmanuel Macron. Ouais. Et Charles Michel avait dit « La Belgique n'a pas de port sur la Méditerranée ».
Voilà.
Et on peut parler de beaucoup de choses, mais ça dit le degré d'insensibilité à cette question. Voilà.
Oui. Mais les gens sont contre-foot, c'est assez hallucinant. Et en fait, c'est d'une violence sans nom. Et après, quand il y a des gens voilà, qui crient dans la rue, qui disent non, qui vont s'enchaîner aux grilles du 127 bis, qui essayent de faire des choses, ces gens ont des arrestations administratives, ils ont des ennuis. Ils ont des... Mais les activistes, je trouve même qu'on n'est pas assez nombreux, même s'il y a une frange énorme de la population qui est quand même assez, voilà, qui reste humaine. Il y a tous les hébergeurs de migrants, il y a tous les gens qui se bougent et qui ont du mal à faire plus, parce que déjà, c'est toute une organisation aussi, d'avoir des gens qu'il faut suivre, qu'il faut aider. Il faut savoir que quand ils arrivent ici, ils sont déjà passés par la Libye, par plein de choses. Ils vont se faire enfermer ici par des policiers belges, ils vont se faire choper leur sac de couchage, on leur perce les sacs, on leur vole leur téléphone,
ouais,
enfin
ouais,
bref.
Ouais, c'est chaud.
Oui, ouais, c'est vraiment chaud, ils sont acceptés nulle part, on en parle très peu. Et donc les familles qui recueillent ces gens, ils essayent de les aider psychologiquement aussi, de les soigner, d'essayer de les reconstruire. Mais c'est hyper compliqué parce qu'ils n'ont pas la formation, ce sont des citoyens lambda. Et les gens qui ont la formation et qui pourraient le faire, eh ben, n'ont pas les moyens parce que le gouvernement refuse de leur en donner, parce que c'est pas important.
Il faut désobéir là.
Il faut complètement désobéir. Mais d'ailleurs, ça va, il y en a pas mal qui désobéissent.
Oui, oui, ça commence, ça prend un peu plus d'ampleur, on va dire.
Pour être encore un peu plus, je pense. Ouais. Mais j'ai confiance.
Christelle,
oui.
Le mot de la fin sur tout ça
Il faut se bouger, il faut surtout pas fermer les yeux et il faut se réveiller et pas laisser faire parce qu'en fait c'est les migrants, c'est les chômeurs, c'est les vieux, c'est les étudiants, c'est les profs, c'est les infirmières et puis bref, quand il n'y aura plus rien, déjà on a quasi plus de planète donc... Faut se bouger le cul un peu, je pense. Mais sinon, je suis très, très optimiste dans la vie. Il n'y a pas à dire. Je suis quelqu'un de drôle.
De toute façon, oui, mais ça n'empêche pas de garder le moral et de se battre avec le sourire quand même. Parce que, non,
bien sûr,
ça n'empêche pas.
J'avais plus lu cette liste depuis le mois de décembre parce qu'on a arrêté au mois de décembre. Et le fait de recommencer, je me dis, OK, il va falloir que j'y retourne. Je vais y retourner, ouais, je pense.
En tout cas, merci à toi de tout ça. C'est génial. Et à une prochaine, à bientôt. Tu restes pour écouter la suite.
Bien entendu.
Allez, c'est parti.
Si j'étais toi et t'étais moi, on s'aimerait encore, qu'est-ce que tu crois? On rêverait encore de l'autre bord. Plus belle que ça, il n'y a pas. On n'a plus l'âge, l'avantage, mais du regret. On n'en a pas, du regret. On n'aura pas. Ce bourgeois qui est en moi, je ne l'aime pas, mais il est là. La rebelle qui est en elle me va très bien, ça la rend belle. Elle demande pourquoi, on répond pas, elle ne lâche pas, elle hausse la voix, elle monte les gestes, elle lève le bras. La rebelle qui est en toi, il n'y a rien de tel pour moi. Si j'étais toi et t'étais moi, on s'aimerait encore, qu'est-ce que tu crois? On n'a plus l'âge de l'avantage, mais du regret, on n'en a pas, du regret, on n'en a pas.
Voilà, on continue ce Campus Info du vendredi soir avec autour de la table Nocif Art, représenté par Alexandre Hannes.
Oui, moi je viens vous parler d'art, donc c'est peut-être un peu plus soft aussi, hein, je ne sais pas. Le Nocif Art a quand même des œuvres interpellantes et un peu trash, mais bon, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'utilise des matières nocives pour faire des œuvres d'art. Donc, c'est pas évident de faire du beau avec du nauséabond. Hein. Donc, notamment, je pense aux mégots de cigarettes, des particules fines, de la résine de cannabis, du silicone synthétique, et des piles électriques. Enfin, il y a toute une série de matières qu'on peut utiliser pour faire de l'art. C'était un concept que j'ai créé il y a une douzaine d'années, je pense, maintenant, et que je peux encore développer.
C'est-à-dire, tu peux encore développer, oui, tu veux dire qu'il y a encore de la matière
On peut très bien faire des aquarelles avec du pesticide, ou voilà, j'ai même fait des photographies aussi qui relatent des situations néfastes, mais tout ça reste dans le même concept, dans le même axe central, c'est-à-dire la nocivité. Je suis un peu prisonnier de mon concept, en fait. Mais ça me dérange
pas. Quoi, prisonnier dans le sens que tu peux plus imaginer autre chose ?
C'est-à-dire que je crée des œuvres, mais je dois rester dans le... Et c'est moi qui l'ai voulu, hein, rester dans cet axe central, c'est-à-dire utiliser la nocivité.
Voilà. Mais d'abord, enfin, pourquoi, là ? Comment ça t'est venu ? Pourquoi cette idée de mélanger l'art et les trucs dégueulasses ?
Je ne suis pas réveillé un matin en me disant « je vais créer un concept qui va s'appeler Nocif Art ». À l'époque, je fumais, maintenant je ne fume plus.
Tu veux dire que tu fumais ?
Du tabac.
Voilà. Voilà.
Et je ne fume
plus. Parce qu'on peut fumer de l'héroïne, on peut fumer du cannabis.
Mais je ne fume plus rien, voilà, comme ça vous le savez.
Ah ben on est content pour toi.
Mais non, à l'époque, je fumais et j'étais simplement dans mon fauteuil un soir et je me suis dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un mégot de cigarette ?» Voilà, tout simplement. Donc j'ai pris un grand classique, hein, un Che Guevara, et j'ai commencé à faire un grand tableau de Che Guevara avec...
Pourquoi tu dessinais à la base quand même ? Tu avais un pied dans l'artistique ?
J'ai toujours dessiné, je suis autodidacte, hein, donc je n'ai pas fait vraiment d'études de dessin. J'ai travaillé avec des photographes aussi, donc j'ai toujours adoré le portrait à la base. Donc j'ai fait ce portrait de Che Guevara, mais qui m'a pris un an de temps, puisque à l'époque, c'était cendrier par cendrier, il fallait attendre que les copains ramènent des sacs de mégots.
Ah oui, c'est des mégots utilisés,
voilà.
Quoi.
Donc c'est simplement le filtre, si vous voulez, parce que le tabac en lui-même, c'est difficile d'éradiquer l'odeur, par exemple. Parce qu'en fait, sur les mégots de cigarettes, je ne récupère que le mégot. Donc c'est le système de pixelisation. Évidemment, en radio, c'est difficile de montrer un visuel, puisque j'en ai pas.
Mais on peut aller voir, hein, en même temps. Tu as une page Facebook Nocif Art, les gens iront voir.
Et il y a un site aussi, nocifart.be. Donc là, il y a tout mon travail. Mais à la base, donc, j'ai commencé à utiliser le mégot de cigarette. Ça, c'est mon premier matériau nocif que j'ai utilisé. Donc j'ai fait pas mal de portraits avec ça aussi.
Des portraits comme le Che, pourquoi le Che?
Mais parce que c'est un grand classique, le Che. Hein.
Oui, mais bon.
Il y a pas mal.
Ok. Mais
je prends généralement des.
C'est quand même une figure bien spéciale, le Che Guevara. Hein.
Oui, bien sûr, mais. En même temps, je ne sais pas, j'ai pas trop, franchement, je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit.
Le fil sur ton assiette, on l'entend super fort, si tu veux bien.
Pardon.
Je sais que ce n'est pas facile.
Donc, il a fallu aussi confiner. Je pense qu'il y avait à l'époque dans ce tableau 20 000 mégots. Donc, il a fallu les confiner aussi, trouver un système de confinage, hein, c'est-à-dire vitrificateur, polyester, parce que c'est immettable au mur, je veux dire, une odeur, c'est
oui, mais on imagine bien que tu as dû trouver tous les subterfuges pour faire que ça sent pas.
Donc, c'est Che Guevara. Pour les mégots de cigarettes, c'était mon prototype.
Moi, je propose de causer du concept, parce que du coup, j'imagine bien que les mégots de cigarettes, maintenant, tu as dû inventer quelque chose pour que ce soit pas trop périssable.
Le concept a démarré avec les mégots de cigarettes.
Ouais, d'accord.
Après, j'ai enchaîné avec des photographies donc sur l'alcoolisme, le racisme.
Des photographies de gens alcooliques, alors ?
Non, pas du tout. Ce sont des montages, plutôt. Des montages sans Photoshop, j'insiste.
Mais explique-nous un peu, quoi, c'est
par
un montage.
Par exemple, quand on a eu ce problème avec le gouvernement qui a duré si longtemps, j'avais créé un paquet de frites. À la place des frites, j'avais mis des mégots. J'avais appelé ça belgicéisme. Voilà, donc ça rejoint un peu le truc. Mais je vous dis, il n'y a pas de Photoshop. D'ailleurs, je ne sais pas utiliser le programme. Et j'ai une trentaine de photographies, et toute cette série de photographies, je n'utilise pas de collage ou de trucage ou que sais-je. Donc
c'est du montage.
Voilà. Donc quand j'ai commencé à créer ces photographies, je me suis rendu compte seulement à ce moment-là que je pouvais créer un concept sur la nocivité et l'art. Puisque j'avais créé le Che Guevara avec des mégots de cigarettes. En plus de ça, donc, j'avais enchaîné avec des photographies, toujours avec cet axe central qui était la nocivité. Et à partir de ça, j'ai développé, et j'ai appelé ça Nocifar. Voilà. Donc j'ai développé...
Mais oui, mais enfin, j'entends bien, mais moi j'imagine, ok, les mégots que tu fais en portrait, d'accord. Puis là, tu me parles de photos.
Parce que dans le concept, il y a plusieurs techniques. Il y a les tableaux mégots, il y a les aquarelles cannabis, il y a les photographies.
Les aquarelles cannabis, qu'est-ce?
Alors, c'est une technique que j'ai carrément inventée, c'est-à-dire qu'on prend la résine du cannabis, on la malaxe dans de l'eau bouillante, et on l'applique comme une aquarelle.
Okay,
sur un papier spécial qui s'appelle un papier torchon gros grain. Et voilà, mais évidemment...
T'as fait le portrait de Greta de cette manière ou bien non, c'est n'importe quoi que je dis.
Non, parce qu'en fait...
Parce je vois Greta en portrait...
Mais c'est... en fait, la matière et le sujet fusionnent à partir du moment où je fais un Bob Marley avec du cannabis, par exemple, ou Greta Thunberg avec de la particule fine. Ça fusionne parfaitement.
Et comment tu fais pour récupérer la particule fine?
Alors la particule fine, ça tout le monde me le demande. C'est simple, hein. En fait, vous prenez une brosse à dents, vous la tapez dans un bon vieux tuyau d'échappement diesel catégorie 3, vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous raclez et vous avez cette matière grasse qui ressemble à de la farine noire et que je travaille sur coton. Donc je trempe ça avec de l'eau, et c'est pas un fusain, c'est pas un dessin, c'est pas une aquarelle non plus, c'est un smographe, j'appelle ça un smographe, parce que les fameux mots qu'on utilise tous les jours, smoke, comme c'était un graphique, j'ai baptisé ça le smographe, voilà. Mais évidemment que le sujet et la matière ont une symbiose, je vais pas faire Greta Thunberg avec du cannabis, ça n'a pas de sens. Quoi.
Pourquoi?
Parce que ça n'a pas de sens.
Oui, mais explique-nous alors le sens, parce que ton sens n'est pas forcément le mien, et le mien n'est pas forcément le tien.
On sait bien que par exemple, Bob Marley est un gros consommateur de cannabis.
Ouais.
Okay, on est tous d'accord. Donc ça va dans la logique de faire son portrait avec du cannabis. Greta Thunberg défend l'environnement et les réchauffements climatiques dus aux particules fines, etc. Donc c'est intéressant de faire son portrait avec de la particule fine. C'est de la calamine, hein, la particule fine. Et il y a toute une série comme ça de sujets qu'on peut fusionner avec la matière. Mais il faut que ça s'emboîte. Il faut qu'il y ait une symbiose quoi, dans les œuvres.
D'accord.
Ça n'a pas de sens, par exemple, de faire un Frédéric François avec des mégots de cigarettes.
Pourquoi?
Parce qu'il n'a pas ce côté nocif. Il n'a pas ce côté...
côté nocif, Frédéric François, c'est vrai.
Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais...
j'ai compris.
Ah voilà, quelqu'un a compris. Donc, mais je pourrais développer encore le concept, ouais, en effet. C'est-à-dire des vidéos, faire des... Parce qu'il ne faut pas confondre le récupère avec le nocifar. Là, je ne suis pas d'accord.
Explique-nous la différence.
Récupère, on récupère un tas de choses. Des boîtes de coca, des bouteilles de plastique, on en fait des petits oiseaux et compagnie. Le nocifar, c'est vraiment très ciblé, quoi.
C'est vraiment nocif, quoi.
Ouais, c'est du nocif, ouais. Par exemple, j'ai dans mon exposition deux taches d'héroïne. Enfin, j'ai des taches d'héroïne sur deux papiers aluminium qui ont été pris en fumette. On appelle ça en fumette. Moi, je ne suis pas consommateur, mais que j'ai récupéré dans un WC à la gare du Nord. Voilà, tout simplement. C'est pas une œuvre d'art en soi. D'ailleurs, le titre s'appelle « Ceci n'est pas une œuvre, c'est même de la merde ». Parce que c'est de la merde, héroïne. Mais ça fait partie du concept. Je pourrais développer le concept vraiment à l'extrême. Vraiment à l'extrême. Il y a des photographies, par exemple, qui ont été censurées, non, je peux le dire, à la radio, à Lucelle notamment, parce que ça représentait un curé avec un chapelet avec des petits bonbons.
Excellent.
Alors, c'est censuré. La censure existe en Belgique.
Parce oui, mais ça...
Non,
oui,
mais moi, je ne le croyais pas. J'étais trop naïf pour ça.
Ah, non,
je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, ou censure...
Tu croyais que ça n'existait pas?
Franchement, non. Mais ça existe. Donc... le nocifar, il y a moyen de creuser encore pas mal. Quoi. Pas mal. Ça fait 12 ans que je fais ça. Et je me rends compte que j'ai pas fini, quoi.
Bah oui, c'est sûr, ça, voilà. Dans une société.
Et j'ai cette chance aussi.
Nocive, t'as plein de chance, hein.
Ouais. J'ai cette chance aussi d'être dans l'air du temps, mais franchement, j'ai pas fait exprès, quoi. Parce que maintenant, on parle beaucoup des ramassages mégots, je sais pas si vous connaissez ces mouvements citoyens.
Ah oui, mais par moi, les gens.
Je peux vous dire qu'il y a 12 ans, je prenais mon vélo, ma gamine, et j'allais faire les 100 d'art à l'UCL, avec ma petite balayette, machin, mazard. Maintenant, tout le monde se bat pour venir ramasser des mégots et faire sa petite BA. Mais c'est très bien, hein, attention. Hein. Mais je l'ai fait bien avant eux. Mais voilà.
C'est super marrant, on a entendu ton grattement. J'ai dit la table part en résonance. Hein. Bah oui, quand on n'a pas l'habitude. Et quoi, dernière question pour continuer après. Le public, comment il reçoit cette exposition, comment il voit tes œuvres, comment le retour un peu de tout ça, ça donne quoi?
Bah, ils sont interpellés. Maintenant, qu'on n'aime pas, ça c'est un autre problème. Mais généralement...
Mais il faut savoir, par exemple, que le portrait de Greta Thunberg, par exemple, est fait en particules.
Oui.
J'imagine que tout ça est explicité dans l'exposition, c'est mis en avant quand même, ça.
Oui, faire une icône, évidemment, ça passe aussi dans les journaux, ça attire les journalistes...
Oui, parce qu'en plus, Greta, c'est un beau sujet.
Oui, c'est un beau sujet très actuel.
Ah bah oui, qui touche...
Donc évidemment, quand je surfe sur la vague, j'ai plus de chances d'avoir des retombées dans les journaux ou à la télé. Ou...
Et quoi, tu surfes sur la vague expressément, du coup? Ça t'amuse?
Ça m'amuse, oui.
Ouais, ouais.
Ouais, faut être honnête. Ouais. Mais bon, en même temps, on vit entouré de nocivité. Mais... Donc, moi, je reflète simplement ce que je vois, hein. De façon artistique, esthétique, nauséabonde peut-être, mais ça me plaît, moi je m'en fous, en fait, c'est mon concept, et je veux rien faire d'autre, ni des aquarelles, ni quoi que ce soit, je veux dire, en dehors du concept, hein. Je suis vraiment dans mon...
T'as trouvé ton...
Ouais.
Hein, ton créneau, là, ouais. Et t'as envie de faire une belle recherche là-dedans, quoi. Ouais. Autour de la table, quelqu'un a envie de réagir à ce qui se dit là?
Ben moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir des trucs quand les sujets se rejoignent. Et quand tu parlais des photos sur l'alcoolisme, etc., c'est quoi
Ben, par exemple, l'alcoolisme, ouais, ouais. C'est mon visage, en fait, hein, ouais. Avec dans la bouche un stérf, comment on appelle ça, une crépine d'évier.
Ok, ouais.
Donc, l'alcoolisme chronique, c'est vraiment le gars qui boit tout et n'importe quoi. Donc, ouais. C'est vraiment un égout, en fait. Mais bon, c'est très difficile d'expliquer. Okay.
Il faut aller voir, quoi. Donc, il y a une expo.
C'est un peu comme le racisme. En fait, c'est le gars, sur la photographie, tient dans une écuelle. C'est une petite noix. Et en fait, c'est son cerveau. Ce qui veut dire qu'il a un petit esprit, quoi, en gros.
Ouais, mais, ouais.
Évidemment, c'est,
faut
le voir.
Ouais. C'est visuel, quoi.
C'est très visuel. Ouais.
Ça raconte des choses visuellement. Donc, une expo à voir jusqu'au 21/2 à l'espace Artefac.
Artefac, ouais.
Artefac. Ça a où lieu, ça?
C'est sur le site de l'UCL. Hein.
Ah, voilà.
C'est
voilà.
Métro Alma, je précise, parce que c'est très difficile de venir en voiture. C'est un campus universitaire, hein, donc... Et c'est un espace qui accueille des artistes de Woluwe, mais aussi des étudiants de l'UCL qui ont un rapport avec des sujets de société. Voilà.
De toute façon, on retrouvera toutes les infos pratiques sur la page Facebook de Radio Campus. Merci Alexandre.
Merci.
On continue ce tour de table. Avant, on s'écoute Boris Vian. Vous vous rappelez de ce type?
Bonne idée.
Ben ouais. Mmh.
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant, bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement, et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Il n'y a rien à espérer, il n'y a vraiment qu'à la laisser crever. Tout ça parce qu'elle a épousé un coquelicot déjà fané.
Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. L'été tard, tôt ou tard, on finit par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un mastard, un costaud bien baraqué. Mais bourré de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé. Ce qui est assez parisien.
Je suis un zombie parmi les humains perdus, ou un humain parmi les zombies, je sais plus, vicissitude. Ici les gens intelligents sont pleins de doutes, les cons eux sont pleins de certitudes. Le roi est nu, avoir peur de clams c'est du terrorisme à chaque coin de rue. La vérité sort parfois de la bouche d'une statistique. T'as 7 fois plus de chances de finir sous la balle d'un flic perdu. Éclaté sur une paroi, ajoute 20 fois plus si t'as la gueule de l'emploi. Une psychose qui s'accélère, et tout le monde s'en fout quand un psychopathe a les codes nucléaires. S'ils sont prêts à renoncer à leur liberté pour plus de sécurité, faute, c'est qu'ils ne méritent ni l'un ni l'autre. Les épaules se haussent et du riz des hommes qui maudissent les conséquences dont ils chérissent les causes. Le droit c'est de la subjectivité, vit dans un globe où humain est devenu bout de papier. Ça me hante, dessine-moi un pays, un coussin pressé 11 minutes sur le visage d'une femme qui chante. Dessine-moi un pays croulant, une balle qui s'est logée dans le visage innocent d'une fillette de 2 ans, flétrie. Pour certains, la seule chose qui s'est perdue ce jour-là, c'est leur sens de l'empathie.
J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur?
J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur?
J'ai raté un battement de cœur, un battement de cœur, un battement de cœur.
Dessine-moi un pays, là on laisse dormir de nuit une mère avec le sang de sa fille, transposé dans un film d'épouvante. Les migrants sont devenus des cimes mouvantes. Le deuil aurait dû laisser place à un silence gênant. Même la télé ose dire que c'est la faute aux parents. Entends-tu les nimes offenses? Ils n'ont même plus le minimum. Du minimum de la décence, c'est le prime time quand il dégueule. Et même la pire ordure, c'est parfois quand elle doit fermer sa gueule. Mais là, c'était sûrement trop leur demander. Alors, qu'est-ce que valent nos vies de bas années? Dans quel foutu cauchemar, dans quel abîme? Rêver d'un monde meilleur est un crime. Et qui peut reprocher à une mère de vouloir fuir la guerre pour ses gosses? Qu'ils se montrent et jettent la première pierre, rageur comme un ulcère. Curieusement, vous mettez plus de cœur à leur faire la guerre. Le cynisme sous perfusion, quand ils s'en servent d'épouvantail pour gagner les élections. Pour bombarder leur pays, les milliards tombent, il est con, mais pour leur tendre la main, y'a pas l'ombre d'un euro, ouais. Je sais pas ce qui est le plus choquant dans ce pays, le meurtre d'une fillette ou le silence qui en a suivi. Mahouda, ce mirage décline, une mesure de silence, mais jamais silencieux quand la police assassine.
Ouais, j'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur?
J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur?
J'ai raté un battement de cœur, un battement de cœur.
Voilà, c'était Battement de cœur. Mais c'est de qui, en fait? Parce qu'on voit pas...
C'est Code Rouge, qui est un rappeur bruxellois.
Voilà. Et bien, qui vient-on d'entendre? C'est Martin Van der Elst, alors qui fait partie du comité Justice, comité Maouda, Justice Vérité.
Voilà, oui. Ouais.
Qui, heureusement, est bien là, hein. Et qui fait parler de lui, de ce comité, qui laisse pas passer. C'est ça aussi un peu l'idée derrière tout ça, quoi. C'est qu'il y a des gens qui mènent le combat, on va dire ça comme ça.
Ben, ouais, tout à fait. Pour nous, l'assassinat de Maouda, il va y avoir bientôt 2 ans, a constitué un point de rupture avec les politiques migratoires. On en a discuté tout à l'heure, on sait... de façon plus ou moins consciente, de façon plus ou moins refoulée, que les politiques migratoires tuent. On sait qu'elles ont tué. Le nom de Semira Adamou est un nom qui a longtemps été un nom important pour la lutte contre cette politique migratoire. Et Maouda a été un réveil difficile, puisque tout dans cette histoire raconte la déshumanisation. Depuis le départ... c'est une guerre qui est menée. Les personnes qui sont tuées sont considérées comme n'étant pas des personnes. En Méditerranée, on ne peut pas secourir des personnes en danger. Donc on les disqualifie de leur statut de personne. Donc elles n'ont pas droit au respect des droits fondamentaux. Elles sont traitées comme criminelles. Et nous, on s'est constitué avec le comité... dans la suite, après la première demande d'une régularisation immédiate et définitive, parce que la première chose qui a été...
Martin, tu peux redire en 2-3 mots ce qui s'est passé pour les gens qui ne se souviendraient plus?
Ben donc pour le dire vite, en Belgique, il y a des opérations Medusa, qui sont des opérations de traque aux migrants. Qui sont des missions spécifiques confiées à la police des autoroutes et des chemins de fer, d'arrêter les migrants à tout prix. Et à tout prix, ça veut dire au risque de tuer. Et donc, c'est une nuit comme il y en a eu d'autres. Une camionnette qui part de la frontière française à destination de l'Angleterre. La famille de Maouda sont des Kurdes d'Irak qui sont d'abord passés par l'Allemagne et qui tentaient de rejoindre l'Angleterre. Parce qu'ils savaient bien qu'ils n'obtiendraient pas le statut d'asile en Belgique. Et ça, je pense que ça, on en a un peu discuté tout à l'heure, mais le cadre Dublin qui consiste à détruire de l'intérieur le droit d'asile, qui est le dernier droit à la migration qui existe encore, crée ce phénomène-là de passer, d'essayer de rejoindre l'Angleterre. Et donc, il y a cette camionnette qui est prise en chasse, enfin qui est d'abord repérée sur un parking d'autoroute à Nîmes-Mézières, près de Mons, et qui est prise en chasse par 3 voitures de police. Et donc le conducteur tente de continuer la route. Puis à un moment, une voiture de police arrive, se met à côté, le policier prend son arme et tire. Il tire et il tue Maouda. La course-poursuite s'arrête quelques kilomètres plus loin. La police intervient dans ce cadre de Medusa. Donc la famille n'est absolument pas considérée comme victime, mais comme criminelle. Ils sont tous arrêtés. On leur dit « Don't move or we shoot you ». Donc on réitère la possibilité de tuer. Maouda est laissée sur le sol du parking, gisante. Les parents sont arrêtés, le petit frère de 4 ans est emmené avec le père et la mère. La mère ne peut pas accompagner sa fille dans l'ambulance, elle va mourir dans l'ambulance qu'elle l'amène à l'hôpital. Le parquet n'est pas prévenu, c'est un policier qui, plus de 40 minutes plus tard, se dit « Aïe, il va falloir prévenir le comité paix ». Il n'y a pas de zone d'exclusion judiciaire, comme normalement dans n'importe quelle situation. Et puis voilà, les parents sont arrêtés. On apprend plus tard, nous on apprend le lendemain cet événement. Les parents sont libérés du commissariat avec un ordre de quitter le territoire. On prévoit d'enterrer Maouda dans le carré des indigents. Le carré des indigents, c'est les fosses communes où les gens n'ont pas de nom. Et on prévoit forcément d'expulser la famille de Maouda. Plus tard, ils rencontreront Louis Michel qui avait tenté d'organiser une exfiltration vers l'Angleterre. Parce que ce que a peur... très vite le gouvernement, c'est qu'il y ait une enquête qui soit menée et que cette enquête mette en exergue le cadre de cette opération.
Mmh.
Voilà ce qui s'est passé.
Et c'est là que vous, vous intervenez, vous lâchez pas, quoi.
Ben nous, on intervient très vite en se disant, c'est, moi je me rappelle très bien de ce week-end-là, en se disant, on peut pas laisser cette famille sans droit. Et donc il existe, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, un droit à résider sur le territoire duquel un membre de sa famille est inhumé. Et donc, de fait, la famille de Mahouda, normalement, a le droit d'obtenir une régularisation immédiate, ce qui ne va pas être le cas. Il va, je vous passe les détails, mais de surenchère entre la NVA et l'EMR, silence total de la part de tous les autres partis, responsabilisation de la famille de Mahouda. On a considéré qu'ils avaient utilisé la tête de Mahouda comme bouclier humain.
Ah ouais, ouais, tout ce qui s'est dit, c'est affreux.
On a responsabilisé les parents, ouais. Mais il faut le dire, parce ouais. que ça fait partie du monde dans lequel on le vit. Et donc, nous, on se dit très vite qu'il faut faire signer un nombre important d'universitaires, de citoyens, d'artistes pour que cette demande de régularisation arrive, parce que se met en place une course contre le temps pour essayer de rattraper l'irréparable. Donc, il y a cette demande de la famille d'obtenir une régularisation et d'avoir une enquête parlementaire pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc, nous, on se constitue assez rapidement en comité, parce qu'on prend conscience qu'il va falloir tenir au-delà de l'indignation. À l'époque, il y a eu beaucoup de prises de parole demandant la démission de Franken, et on peut comprendre des cris de colère comme cela, mais ce ne sont pas des outils politiques utiles. Et donc pour nous, l'important était de tenir un combat longue durée, d'utiliser tous les moyens nécessaires pour obtenir justice. On sait que ça va être un combat long, qu'il faudra probablement
ouais,
aller...
Tu le disais déjà la fois où t'es venu, hein, ouais, la dernière ouais, fois. Ouais, tu disais ouais, ça ouais. aussi, que ça va être très long.
Et c'est pour ça qu'ici, moi je viens parce qu'on a lancé donc avec Code Rouge qui a écrit cette chanson et fait ce clip qu'il faut voir. On lance une cagnotte Letchi pour récolter de l'argent pour les frais d'avocat. Parce que nous pensons depuis le départ que l'institution judiciaire n'est pas une boîte noire. Mais c'est un lieu de pouvoir et qu'il faut pouvoir donner les moyens, parce que les policiers, eux, ont des avocats qui ont les moyens de faire les recours, de faire les devoirs d'enquête complémentaire. Donc on doit pouvoir dégager les moyens pour qu'on puisse gagner ce rapport de force. Des affaires similaires ont eu lieu en France et donc on sait que si on tient le coup, on va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et que l'État finit par être condamné.
Ah ouais.
Et donc c'est un combat de longue haleine et le combat juridique est souvent un combat... de l'ombre. C'est-à-dire que nous, en tant que militants ou citoyens, on s'indigne, parce qu'il y a lieu de s'indigner. On se réunit à certains moments, on arrive à faire exister un seuil d'intolérable, et puis ben, la vie reprend. Et dans l'ombre, les avocats continuent. Et donc il faut, ça, je tiens à le dire, si la famille de Mahouda est toujours en Belgique, qu'elle a maintenant une régularisation d'un an renouvelable, c'est parce que le tribunal du travail de Bruxelles a donner un avis sur l'impossibilité du retour parce que les avocats ont fait un travail important d'accompagnement, de requête. Et donc on pense qu'en tant que citoyen, en tant que militant, en tant qu'activiste, on doit soutenir ce travail. On doit le rémunérer. Souvent, c'est un grand tabou dans le monde des militants et des citoyens qui est celui des moyens financiers. Mais c'est un travail important. Sinon, on ne parlerait pas de cette histoire.
Non, vraiment, moi je prends conscience, je sais pas si vous autour de la table, excuse-moi Martin, je t'ai coupé.
Non, bien sûr, pas de problème.
Mais je prends conscience que c'est énorme et c'est vraiment génial qu'il y ait des gens comme vous qui sont là, quoi, voilà, qui font bouger les lignes. Maintenant, ça doit pas toujours être évident, évidemment. Et ben, comme tu dis, il y a des histoires d'argent aussi, quoi. Ben, ça doit pas être un sujet tabou.
Non, c'est vraiment un sujet important. Parce que c'est les moyens nécessaires qu'on peut se donner pour établir une justice dans une situation profondément asymétrique et inégalitaire. Après, nous on voit, parce qu'on tient depuis 2 ans, et on voit quand même qu'à force d'intervenir dans les médias, d'écrire, de faire un clip, de faire un certain nombre de shows, le discours médiatique change. On a une capacité de faire changer la façon dont on parle. Là, on a lancé la cagnotte et ça a accéléré la condamnation, enfin l'inculpation du policier. Le policier qui a tué Mahouda reconnaît depuis le premier jour les faits, mais il n'avait pas été inculpé.
Tu veux dire qu'il reconnaît, il reconnaît quoi exactement?
Parce il que... reconnaît avoir tiré.
Ah bah oui.
Voilà, et donc, comme c'est le cas très souvent dans les meurtres et les assassinats policiers, quand on ne peut pas ne pas reconnaître le tir, on tente de rendre le tir involontaire et on organise une plainte pour rébellion. Donc ici,
ils ont essayé ça.
Pour l'instant, c'est encore le cas. Il y a cette hypothèse qui, pour nous, est une hypothèse totalement farfelue, que le conducteur de la camionnette, par son comportement de conducteur, donc on est à 90 km/h, une camionnette remplie de migrants, donc voilà, on voit bien que c'est pas les courses-poursuites à l'américaine, et son comportement aurait donc fait de la camionnette une arme. Nous, on le répète, la seule arme cette nuit-là était dans les mains du policier, et c'est cette arme qui a tué. Et donc, c'est toujours cette façon de disculper, de rendre l'homicide involontaire.
Oui, c'est de ça qu'il s'agit, en fait, c'est de raconter l'histoire un peu comme elle arrange, en fait.
Et on voit que la justice, ce sont donc des hypothèses et des récits qui sont armés. Armés concrètement ici, mais aussi armés par une capacité d'intervenir au niveau avocat, de faire consister des hypothèses qui ont l'air farfelues, mais dont l'objectif est de protéger la police. Et donc il faut que nous puissions payer des avocats qui puissent faire un travail conséquent pour permettre à la parole des parents d'être entendue comme une parole qui compte et qui peut obtenir une réparation judiciaire.
J'entends parler aussi d'une cagnotte pour une pierre tombale, c'est ça aussi l'idée ?
Alors il y a eu la cagnotte au départ est sur les frais d'avocat et la pierre tombale, aussi parce que, je le disais, cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui octroie le droit au séjour d'où est inhumé, enfin sur le territoire d'où est inhumé un membre de sa famille, aider la famille à obtenir une pierre tombale, permettre de payer la concession, c'est aussi pour nous consolider son droit au séjour, parce que c'est un an, c'est renouvelable, vu le contexte, probablement que ici, en avril, je crois, ce sera reconduit pour un an, mais c'est aussi une façon de faire respecter le droit international. Alors, la plateforme citoyenne qui s'était engagée à déposer cette pierre tombale a pris la... Comment est-ce que je dirais ça ? Elle a pris la responsabilité de donner une date en nous disant que donc, 2 ans après, en mai, normalement, cette pierre tombale devrait être posée. Donc nous, on a communiqué en disant, voilà, on continue à suivre le dossier. Et si la plateforme citoyenne prend en charge ses frais, c'est une très bonne chose. Et donc, on s'est plutôt concentré sur les frais d'avocat. Pour l'instant, on a obtenu un premier palier de 5 000 €. Il reste encore 29 jours. Donc 144 personnes ont participé. Il reste encore 29 jours.
Pour arriver à 10 000,
On espère arriver à 10 000. On n'est pas certain d'y arriver. 10 000, c'est un chiffre qui est calculé sur base de frais déjà encourus. On est probablement bien au-delà. C'est toujours la problématique des avocats militants. C'est que c'est des avocats qui font du sur-travail bénévole parce qu'ils sont habités par la justice et pas par le travail qui se passe souvent quand c'est des avocats pro deo, c'est-à-dire un travail à minima.
Et c'est maître Ben Khalifa.
Et alors, il y a aussi Robin Bronlet, je pense, qui est aussi sur le coup. Et donc, on espère obtenir 10 000. Donc, ce sont les frais encourus jusque-là. On est content d'arriver à un premier 5 000. Ça, je vais juste quand même insister là-dessus. C'est bien et en fait, c'est très peu. C'est très peu. Et c'est pour ça qu'on laisse encore 2 semaines. On continue à mettre la pression sur un certain nombre d'associations. Pour l'instant, beaucoup d'associations institutionnelles ont relayé le clip sur leur Facebook, mais n'ont pas encore fait ce travail de réappropriation, de s'impliquer. On a créé une, entre guillemets, banque citoyenne en levant en quelques semaines 30 millions d'euros pour Newbie.
Oui, c'est vrai.
C'est bien, les universités s'étaient mobilisées. À l'époque, les recteurs des différentes universités de Belgique avaient signé un appel pour la régularisation de la famille. Ils avaient insisté sur le cadre de chasse aux migrants dans lequel ça avait passé. On attend d'eux qu'ils se mobilisent aussi pour
faire de
cette cagnotte un enjeu collectif, parce que nous avons des moyens d'expression limités. Merci beaucoup de nous inviter ici pour relayer plus largement, mais on a vraiment besoin que ça prenne à une audience plus importante.
Merci Martin Van der Elst du comité.
Merci beaucoup à vous.
Maouda, justice, vérité, tu as envie de terminer sur quelque chose de particulier
là-dessus ? Moi, je voudrais juste dire, pour terminer sur cette question de l'insensibilité, en fait, il faut voir ça dans l'histoire longue des crimes contre l'humanité. On sait que beaucoup de rues et de statues à Bruxelles sont au nom de criminels de guerre, donc des colons. Ici, à l'ULB, il y a un nombre important de crânes de chefs congolais assassinés. On construit cette insensibilité, elle a une portée histoire. Historique longue. Et donc il faut reconstituer une capacité éthique à l'humanité. Voilà, c'est pour ça que nous on continue à se battre.
Bah merci en tout cas à vous. Merci aussi à tous ceux qui étaient autour de la table et on retrouve toutes les infos pratiques de vos projets sur la page Facebook, le lien pour la cagnotte Litchi et puis bonne continuation dans vos projets.
On va rien lâcher.
Hein. Bah non. Merci.
Bonne soirée.